Beaucoup de sujets de bien-être féminin sont encore tabous ou minorés. On n'évoque finalement pas, ou peu, notre fonctionnement cyclique et son impact sur notre qualité de vie, notre équilibre hormonal, le syndrome prémenstruel ou encore la périménopause. Et comme on n'en parle pas, on n'en sait pas grand-chose. Alors, nous avons décidé de partir à la rencontre de femmes de tout âge, avec des expériences très différentes, et de leur donner la parole sur leur rapport au corps et à leur cycle, ce que nous avons à cœur de nommer l'écologie corporelle féminine. Nous sommes Caroline et Anna, fondatrices de Millier. Vous écoutez un épisode de notre podcast Woman Body Ecology. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Isabelle Sansonetti, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Donc en fait, je vais vous poser effectivement des questions sur l'écologie corporelle et sur le rapport au corps des femmes en général. Je vais d'abord vous demander de vous présenter.
Voilà, alors écoutez, moi c'est Isabelle Sansonetti, je suis journaliste. J'ai pendant 22 ans travaillé à la rédaction du Elle. J'étais chef de rubrique beauté et je suis freelance depuis 2 ans et je viens d'écrire un livre sur la médecine et la chirurgie esthétique qui s'appelle « J'y vais pas » et qui est publié chez Lattès. Donc c'est vrai que l'apparence physique et le bien-être a toujours été très important, un sujet très important pour moi puisque je l'ai traité dans les pages du magazine. En fait, quand j'ai intégré la rédaction, on m'a confié une rubrique qui à l'époque s'appelait la News Form et dans laquelle je traitais de tout ce qui peut favoriser le bien-être. Donc c'est aussi bien la pratique d'une activité corporelle que la façon de s'alimenter, que des produits qui peuvent nous aider à aller bien. Donc c'est vraiment quelque chose que...
Soin de soi, quoi.
Voilà, prendre soin de soi.
Quelle que soit la façon.
Voilà, exactement.
D'accord. Et alors après, vous avez eu envie d'écrire ce livre sur la chirurgie esthétique.
Oui, alors ça, c'est parce qu'en fait, j'avais au magazine Elle deux casquettes, on va dire. C'est qu'à la fois, je traitais de tout ce qui était wellness, bien-être, les massages, le sport, le yoga, la méditation. Et j'ai aussi toujours suivi les sujets de médecine et de chirurgie esthétique. Parce qu'en fait, quand j'ai débuté au journal, j'avais auparavant, quand j'étais pigiste, j'avais assisté à l'émergence des injections anti-rides. À l'époque, il y a très longtemps, on injectait du collagène, ouais. Ce qui n'existe plus du tout. Et donc, quand je me suis présentée à Valérie Thoragnan, qui était à l'époque la chef du service beauté, elle était intéressée que j'ai commencé à écrire sur le sujet. Et donc, les premiers sujets que j'ai traités pour le L, c'était des sujets de médecine esthétique, puisque ça arrivait vraiment. C'était quelque chose qui était très nouveau. Le fait de pouvoir combler une ride. Et à l'époque, la médecine esthétique était une médecine qui corrigeait les signes de l'âge, ouais. Ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle continue, quand on a 45 et plus, de traiter les signes de l'âge, mais elle est aussi très prisée des jeunes générations qui y vont aussi pour modifier certaines parties, notamment de leur visage, et pour embellir. Donc la médecine esthétique a beaucoup, beaucoup évolué.
D'accord. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on l'utilise pour... refaire un nez, gonfler des lèvres, rehausser des pommettes, etc., etc. Ce n'est plus synonyme d'anti-âge, c'est ça que vous dites.
Voilà, pas que de l'anti-âge, c'est aussi redéfinir les contours d'un visage. Un peu, on parle du contouring en maquillage, et ben en fait, c'est quelque chose que les médecins esthétiques, les dermatologues, ceux qui injectent de l'acide hyaluronique, ont développé aussi. En médecine pour que une jeune femme qui trouve qu'elle n'a pas des contours suffisamment définis ou des pommettes suffisamment saillantes puisse avoir le visage qui lui convient. Donc ça s'est beaucoup développé dans cette direction-là aussi.
D'accord. Alors, au regard de votre expérience et de tout ce que vous venez de nous dire, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui évoque pour vous l'écologie corporelle ?
Alors, l'écologie corporelle, pour moi, c'est en fait le fait de tenir compte des besoins de son corps et le fait de ne pas l'agresser et puis aussi le fait de s'en occuper parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'occupent pas vraiment de leur corps et le corps doit suivre. Et donc, l'écologie corporelle, c'est quelque chose qui doit permettre de vivre en bonne entente avec son corps, ce qui n'est pas forcément facile. À la fois, on peut être très, très exigeant avec son corps, c'est-à-dire qu'il doit être, il doit avoir l'apparence physique, l'apparence qui nous convient, il doit suivre coûte que coûte, peu importe la fatigue, le stress et tout ça. Et donc, l'écologie corporelle, ce serait repasser par les sensations et repasser par les rythmes propres au corps dont on est parfois éloigné, notamment quand on vit une vie trépidante de citadine, ou pas que les citadines, mais c'est vrai qu'on a, les femmes ont souvent une vie, plusieurs vies en une, et donc le corps doit suivre à tout prix. L'écologie corporelle, ce serait de se préoccuper de lui avant qu'il donne des signes de faiblesse, de fatigue ou voire de maladie. Ce serait ça pour moi, l'écologie corporelle.
Et c'est prendre soin de soi.
Évidemment, c'est prendre soin de soi. Et du coup, prendre soin de soi, ça commence par, aussi par se demander ce qui nous convient, enfin ce qui convient à notre corps aussi. C'est savoir que le corps aussi, connaître un petit peu la physiologie, et savoir que si on est assis sur une chaise 15 heures sur 24, on sait qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction de l'écologie corporelle, parce qu'on a des vies qui sont extrêmement sédentaires aujourd'hui. Ça, j'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus dans le L, et c'est vraiment délétère pour le corps. Le corps, c'est aussi le mouvement, et c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup en position assise et pas du tout à utiliser notre corps qui est fait pour marcher, bouger, courir et tout ça. Donc déjà, ça c'est une première pour aller en direction de l'écologie corporelle, ce serait de ne pas oublier le mouvement dans son quotidien. Ça serait vraiment, serait vraiment génial que tout le monde puisse s'interroger sur, voilà, sur la place qu'il accorde au mouvement au quotidien dans sa vie. C'est aussi minimiser le stress, parce qu'on sait que le stress est délétère. Hein. Donc ce serait aussi de savoir pour soi qu'est-ce qui peut être bien pour minimiser le stress. Ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. C'est d'essayer de trouver des conditions qui soient appréciables pour soi. Alors c'est aussi, ça a aussi à voir aussi avec l'alimentation, l'écologie corporelle. C'est aussi prendre conscience que ce qu'on ingère a quand même beaucoup à voir avec, avec un corps en bonne santé et un corps qui est bien. Le bien-être, ça passe aussi par un équilibre. Le bien-être, pour moi, et l'écologie corporelle, c'est un équilibre entre le corps et le mental. Et donc tout ça, c'est cette écologie-là, c'est le mouvement, la façon dont on se nourrit, les moments de calme qu'on s'accorde, les moments de joie, les moments de respiration. Ça passe par beaucoup de choses.
Et il y a une question que j'ai envie de vous poser, parce que vous avez écrit un livre sur la chirurgie esthétique, c'est où se place la chirurgie dans cette écologie corporelle. Par exemple, il y a un premier parallèle qu'on pourrait faire qui serait de dire que ce serait une béquille pour éviter de prendre soin de soi, justement. Vous, qu'est-ce que vous en dites ?
Alors moi, je ne vois pas ça comme ça. Je pense que la médecine ou la chirurgie esthétique, ça peut permettre de régler un complexe ou de corriger une imperfection qui finit par tellement nous contrarier qu'on ne pense plus qu'à ça. Et que du coup, quand on ne pense plus qu'à ça, on est un petit peu freiné dans sa vie. Donc c'est quelque chose, on règle un problème physique, mais ce n'est pas forcément pour se débarrasser, parce que ça va régler un problème physique dont on pourrait... on pourrait s'en débarrasser en l'acceptant. Ouais. Il y a l'acceptation. Après, c'est vrai, et c'est génial, aujourd'hui, il y a tout un mouvement de body positive où on dit, il y a des normes, où il y a des canons de beauté, et vous allez avoir envie d'aller vers la médecine ou la chirurgie esthétique parce que vous voulez correspondre à des normes. C'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'il y a des femmes qui vont se faire injecter de l'acide hyaluronique et du Botox, ou qui vont se faire modifier quelque chose dans leur corps par une opération de chirurgie esthétique. C'est pas forcément pour ressembler à quelqu'un d'autre, c'est pour être mieux dans leur peau. Donc, en fait, la chirurgie et la médecine esthétique, ça peut participer au bien-être. Ça peut corriger quelque chose qui nous tracasse et qui est physique. Et à ce moment-là, on a évacué ce problème physique et on passe à autre chose, et ça contribue au bien-être, à retrouver de la confiance en soi. Après, effectivement, c'est mieux de s'accepter. On va dire que c'est une belle idée de s'accepter. Le body positive, je trouve que c'est une idée formidable, mais qui n'est pas forcément facile non plus, et qui peut aussi être considérée comme une nouvelle injonction. Donc en fait, il faut que chaque personne puisse slalomer entre les différentes injonctions, savoir que ces injonctions existent. Elles existent au niveau des canons de beauté, ça c'est sûr. On vit en société, et dans cette société, on sait très bien, les canons de beauté les plus mainstream, c'est une silhouette mince, c'est plutôt être jeune, hein, ça c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les magazines. heureusement, ces canons-là n'ont plus la place belle, et en tout cas ils sont bousculés par justement cette volonté d'accepter des beautés différentes et de faire en sorte que parce qu'on est, on a des rondeurs, parce qu'on a des cheveux comme ci ou comme ça, eh bien on peut se trouver belle, on est belle et on n'est pas obligé d'essayer de correspondre à un canon restreint. Donc ça, c'est bien qu'il y ait cette ouverture-là dans notre société, qu'on puisse justement s'accepter quel que soit son physique.
Mais, sans devenir une injonction, c'était hyper
voilà,
intéressant.
Voilà, exactement, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit une nouvelle injonction, parce que voilà, des fois, on est très malheureux. On est très malheureux avec le corps qu'on a. Si on est très malheureux et on se dit « bon, je vais m'accepter », oui, on va essayer, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, en fait, chaque personne doit trouver ce qui lui correspond le mieux. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que comme il n'y a plus toutes ces possibilités-là qui s'offrent à nous, on peut avancer sur son chemin de l'acceptation de soi, effectivement, sans forcément passer par des techniques ou des procédures médicales ou chirurgicales.
Ouais, donc vous pensez que... Si je vous pose la question, comment on parvient à s'accepter et comment on parvient à s'aimer soi-même ?
C'est un long chemin. Je pense que c'est toute sa vie. C'est toute sa vie parce que déjà le corps change. Là, on peut revenir à l'écologie corporelle et au cycle féminin. Mm-hmm. C'est-à-dire que toute sa vie, on change. Quand on est jeune, on est mal dans sa peau. Souvent, c'est rare qu'on soit super bien dans sa peau quand on est adolescent, jeune adulte. Alors, c'est ce que j'écrivais dans mon livre. C'est drôle parce que quand on est, on a 45, 50 ans, 60 ans, qu'on retombe sur des photos de soi jeune, mais le nombre de copines qui m'ont dit « mais j'ai vu une photo de moi quand j'avais 25 ou 30 ans, mais j'étais canon en fait ouais. !» Pourquoi le « en fait » Bah parce qu'à l'époque, je ne m'aimais pas, j'étais mal dans ma peau. Donc en fait, on peut s'apercevoir qu'à chaque étape de sa vie...
Mais exactement, si j'avais su que j'étais aussi belle.
C'est ça. Et du coup, en fait, il y a de quoi relativiser. Parce qu'on sait très bien qu'on a un regard sur soi-même qui va changer au fur et à mesure de sa vie, de son âge, de sa vie de femme. Il y a une évolution du physique. Donc l'acceptation de soi, c'est... Déjà, il faut qu'il y ait cette volonté de s'accepter. Et après, c'est un long chemin. Ça passe par tout ce qu'on met en place, peut-être par une connaissance de soi. Et savoir que, par exemple, si j'ai repéré qu'aller courir ou marcher 2 heures dans la semaine à un rythme intense, finalement, ça, c'est génial parce qu'après, j'ai plus d'énergie, je dors mieux. Et puis, je suis contente parce que j'ai réalisé quelque chose pour mon bien-être. Bon, voilà, chacune va, à son niveau, pouvoir trouver des routines de vie qui vont l'aider à s'accepter. Mais après, on ne s'acceptera jamais 24 heures sur 24 tout le temps. Mais par contre, on est sur un chemin qui va faire qu'on va peut-être faire moins d'erreurs et plutôt essayer d'aller dans le sens de sa propre écologie corporelle.
Donc, c'est la compréhension de son propre corps, en fait.
Voilà, c'est la compréhension et de son propre corps. C'est aussi accorder de la place aux sensations.
Ouais.
Essayer de repérer à quel moment on est bien, par exemple. C'est tout
écouter
bête.
Écouter les signaux.
Voilà, écouter les signaux. Ça, c'est aussi, quand j'ai traité pour le L, il y a eu toute la découverte des disciplines orientales, et notamment le Qigong, le Tai Chi. Donc, je me souviens, il y a quelques années, du coup, c'était hyper à la mode. Et j'étais allée suivre des cours. Et c'est vrai que l'histoire de bien s'ancrer dans le sol, et en même temps de savoir que, voilà, il y a aussi le ciel au-dessus de nous. Et dès l'instant où j'ai traité ces sujets, à chaque fois que je sortais de mon bureau, que je qualifiais d'aquarium, parce que c'est vrai, quand on est dans un bureau, par la fenêtre, on aperçoit un bout de ciel, mais sinon, on est quand même très confiné dans un environnement qui est tout sauf naturel. J'ai pris l'habitude, ça c'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement, quand je sors d'un endroit fermé, je prends le temps de m'ancrer les deux pieds dans le sol et de regarder le ciel et de prendre quelques instants juste pour regarder le ciel, les nuages. Alors ça peut paraître un petit peu, mais je trouve que c'est quelque chose, voilà, de respirer, de prêter attention, parce qu'en fait quand on est en ville, hein, surtout c'est ça, on est assez la nature, elle fait des petits signes, on aperçoit un arbre, mais on est très, elle est loin de nous quand même, et du coup on marche sur du bitume, enfin vraiment l'ancrage, il est quand on lève les yeux entre deux immeubles vers le ciel, là on se rappelle qu'il y a, voilà, il y a un univers qui est plus grand que celui dans lequel on vit, et voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont, voilà, de se s'ancrer dans le sol, la respiration, c'est quelque chose, je pense que ça peut sauver beaucoup de choses, la respiration. Prendre conscience de sa respiration, alors tout ça, ça vient des techniques, aussi bien de la méditation, du yoga, du pilates et des qigong et tai chi. C'est vrai que dans la vie courante, on s'aperçoit qu'on respire dans le haut de son corps et de manière assez fermée, c'est une respiration très restreinte. Et c'est vrai qu'on prend conscience de sa respiration et prendre des temps dans la journée de respiration profonde, ça c'est d'abord un anti-stress vraiment accessible et qu'on peut consommer sans modération dans sa vie de tous les jours, vraiment plusieurs fois par jour. Et c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Donc voilà, chacun va pouvoir cheminer avec des disciplines qui lui parlent aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se mettre au yoga ou à la méditation, même si c'est extrêmement tendance aujourd'hui. Par contre, tout le monde peut prendre quelque chose de ces disciplines qui a trait à, sans aller jusqu'à la méditation, mais savoir se poser et prendre un instant de calme pour soi, savoir accorder un peu de temps à une respiration qui ne soit pas juste une petite respiration un petit peu superficielle. Voilà. Donc, c'est ce type de questionnement et de voilà essayer de sentir ce qui peut nous faire du bien au quotidien et voilà c'est au quotidien c'est pas une fois de temps en temps, c'est vraiment quelque chose qui doit pouvoir intervenir à différents moments de la journée.
D'accord.
Oui, il y a le téléphone qui sonne, c'est pas très grave, non? Elle est assez agréable, cette sonnerie.
Oui. Mais je l'avais mis en silencieux, je comprends.
Mais ça arrive, c'est pas grave.
Bon.
Et non, alors aucun problème, vraiment. Mais c'est donc en fait trouver les rituels en fonction de nos besoins et de ce que notre corps réclame, c'est ça que vous dites. Oui. Moi, je sais que par exemple, je suis une fan de cohérence cardiaque. J'adore.
Ah bah moi aussi.
Voilà.
J'adore aussi. Vous faites bien de m'en parler. J'avais complètement oublié.
Dès que j'ai un petit stress, je me disais, je vais me mettre en cohérence cardiaque, voilà. Ça me fait le plus grand bien.
Oui. Et moi, j'ai une appli sur mon téléphone. Mm-hmm. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai un rendez-vous, quand j'ai quelque chose qui me tracasse ou quand je suis super stressée, je peux le faire jusqu'à 3 fois par jour.
C'est vrai ?
Ah oui, vraiment. Je trouve ça formidable. C'est quelque chose qui... Alors, ça, évidemment, c'est pas non plus magique. Hein. On peut, par exemple, avoir du mal à s'endormir ou se réveiller au milieu de la nuit. Ça m'est arrivé plein de fois de me dire, bon, allez, je vais faire de la cohérence cardiaque, je vais m'endormir tranquillement. Pas du tout, mais c'est pas grave. Au moins, ce temps-là, c'est un temps qui apaise, même si il conduit pas forcément à se rendormir immédiatement.
Ouais, ouais,
donc, voilà, c'est ça. Faut apprendre à se connaître soi-même et à essayer de voir ce qui... Et puis à s'intéresser à différentes disciplines. Il faut beaucoup essayer. Moi, j'ai eu la chance pour le L, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé beaucoup de massages. Donc ça, mes copines trouvaient que j'avais beaucoup de chance. Et ça, le massage aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment reconnecter avec son corps. Mais évidemment, ce n'est pas forcément praticable parce que c'est cher. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut s'offrir. Mais après, on peut aussi aller sur des techniques d'automassage et tester des disciplines corporelles pour voir comment on sent, pour voir ce qui peut nous plaire dans cette discipline ou au contraire. On apprend des choses en fait en testant aussi des disciplines qu'on ne connaît pas.
C'est génial, d'avoir testé.
Oui, parce que ça apprend des choses sur soi et ça, voilà, ou de regarder d'autres personnes, comment elles fonctionnent et tout ça, c'est ça qui est intéressant.
Et en livrant vos conseils et vos adresses, j'imagine, dans le L, après avoir testé plein de choses, vous avez eu quand une lectrice qui a été particulièrement touchée, qui a essayé après, vous avez eu des témoignages, des retours qui vous ont particulièrement marqué?
Là, comme ça, j'aurais dû préparer, je n'ai pas un retour comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand je rencontrais les gens après qui disaient effectivement qu'ils avaient testé cette adresse. Mais c'est vrai que les retours de lectrices étaient assez lointains. On avait parfois des courriers, mais c'était plus comme je m'occupais de la médecine et de la chirurgie esthétique. On posait plutôt des questions pour me demander des noms de chirurgiens et de médecins que je ne donnais pas puisque ce n'était pas mon rôle. Et on m'interrogeait sur des techniques. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone à répondre à des femmes qui se posaient des questions sur des techniques, des procédures de médecine ou de chirurgie esthétique, ça c'est vrai. Et pour le bien-être, oui, c'est quand on en parle comme ça, on rencontre des gens qui ont... À l'époque, il y avait des petits dessins dans la newsform, des exercices, et j'avais rencontré des gens qui me disaient « Ah, mais tu sais que j'ai une page sur mon frigidaire, je pense à toi à chaque fois, parce que je fais les exercices, c'est super. » Et donc c'est vrai que, voilà, C'était ce type de retour.
Donc ne pas hésiter à tester des choses, c'est ce que vous dites en fait.
Oui, voilà.
Par vos fonctions, dans votre poste de journaliste, vous avez dû tester énormément de choses, j'imagine.
C'est ça, même la méditation, a priori, je suis quelqu'un d'assez speed, même si ce n'est pas l'impression qu'on peut avoir de moi. Mais du coup, la méditation, c'est vraiment quelque chose, je trouve ça mais vraiment génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'ai testé, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une formation pour moi-même, hein, avec quelqu'un qui m'initie, parce que seul se mettre à la méditation, j'y crois pas. Hein. Franchement, je pense que c'est très très compliqué, mais voilà, je trouve que c'est une discipline formidable et qui aussi, en fait, ça apprend des choses sur soi-même. Pourquoi j'arrive pas à rester tranquille et pourquoi mon esprit vagabonde et pourquoi je suis en colère contre moi parce que je n'arrive. Enfin, voilà, toutes ces sensations qu'on a de ne pas être satisfait de soi. Parce que, voilà, dans le bien-être, il y a ça aussi, c'est que la satisfaction de soi, on se met aussi beaucoup on est très exigeant avec soi-même et du coup ces exigences parfois ça ne correspond pas à certains moments de sa vie. Il y a des moments aussi, il faut savoir, c'est ce qu'on dit aussi, être reconnaissant, remercier son corps de ce qu'il est pour nous, parce que finalement on veut lui imposer beaucoup de choses pour qu'il corresponde à l'idée qu'on se fait d'un corps en bonne santé, bien, attirant, séduisant, tout ce qu'on veut. Mais après nous, il faut aussi savoir lui laisser un petit peu
La gratitude.
Voilà, de la gratitude et le laisser aussi tranquille de temps en temps.
Ouais, ouais.
Voilà.
Et on peut retomber un peu aussi sur une idée de cycle, l'idée des moments où on serait moins exigeant et où on serait moins à l'affût de que notre corps soit parfait, quoi. Le laisser tranquille de temps en temps.
Oui, c'est pas mal aussi.
J'ai une autre question à vous poser, la dernière. Est-ce que vous auriez une routine bien-être dont vous auriez aimé nous parler, ou alors un mantra, feel good, ou ce genre de petites pensées magiques qui nous aident de temps en temps?
La petite pensée magique, c'est tout va bien se passer, hein, parce que j'essaie de positiver, voilà. Après, la routine bien-être, en fait, justement, je trouve que c'est bien d'injecter dans chaque journée plein de petits moments de bien-être. Alors, bon, il y a une routine, c'est on en parlait avec des amis, c'est effectivement se passer de la crème sur le corps. Je trouve que c'est une routine bien-être tout à fait agréable. Et après la douche, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. C'est le mouvement. Moi, je trouve que dans ma routine bien-être, il faut que j'ai bougé suffisamment dans ma journée. Donc, soit que j'ai marché à un certain rythme, soit que j'ai fait une séance de yoga, soit quand je faisais de la danse, que j'ai fait ma séance de danse. Donc ça, c'est important que le mouvement soit présent dans la vie. Il faut qu'il y ait du beau aussi, qu'on ait vu, un coin de ciel bleu entre deux nuages, ou en tout cas quelque chose qui nous ait réjoui aussi les yeux. Et puis, qu'est-ce que je peux donner comme routine bien-être? Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent apporter du bien-être. Ça peut être aussi une bonne salade qu'on sait cuisiner avec des légumes nouveaux. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est prêter attention, c'est ça. C'est un peu ce qu'on dit en méditation de pleine conscience, c'est essayer de trouver, de prêter attention au moment de la vie finalement. Qu'on croit qui arrive dans notre vie et d'habitude on ne leur prête pas attention, et là quand on trouve qu'on regarde son assiette avant de commencer à déguster, ou quand on sort et qu'on voit le ciel ou un arbre, enfin ça paraît un peu niais, hein, de le dire comme ça, c'est un peu niais, mais en même temps je trouve que c'est important regarder autour de soi, de regarder les gens. Moi, j'aime beaucoup aussi regarder les gens, les autres. Et puis, après, routine bien-être, c'est ce que je vous ai dit, c'est du mouvement, de la douceur, mais de l'énergie aussi. Il faut de l'énergie, sinon on s'ennuie. Et puis aussi des projets. Le bien-être, ça passe par des projets pour se mettre en mouvement aussi.
Des projets vacances, par exemple, après
oui,
le Covid.
Oui, des projets vacances, ou des projets de rencontrer, ou de connaître telle ou telle personne, ou des projets même sur le plan professionnel, de se donner des directions qui peuvent être excitantes pour casser une routine. Parce qu'une routine bien-être, c'est bien, et après, être trop englué dans une routine, ça peut casser justement cette écologie corporelle si on est un peu trop toujours... si on vit un peu trop toujours les journées de la même façon, je pense que ça peut être ennuyeux et que du coup, quand on est dans l'ennui, on est plus dans le bien-être.
D'accord. Ben, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Et puis, merci pour tout et puis à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Bonne journée.